Et merci Anne, à 12h45, en effet, la grande table en direct et en public de la cour du Musée Calvé à Avignon. Et comme tous les jours, deux parties. Dans la première, nous ferons dialoguer Jean Bellorini et Julien Gosselin autour de leurs adaptations de romans énormes. Et puis, aux alentours de 13h35, nous recevrons Anne-Cécile Van Dalem, metteur en scène belge, qui signe Tristesse. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal par Antoine Mercier.
Bonjour à tous. Moins de trois semaines après le Brexit, Theresa May succède à David Cameron pour négocier la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. On sera en ligne avec Annabelle Grelier dans un instant. Les places financières, elles, ont déjà retrouvé leur niveau d'avant référendum, explication de Christian Chavagneux. Il faut éviter de s'égayer, de se disperser, déclare Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, à l'adresse du ministre de l'économie. Emmanuel Macron tenait hier meeting à Paris, on y reviendra avec Stéphane Robert. Après la décision de la Cour international de la Haye de considérer sans fondement les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale, le gouvernement chinois met une nouvelle fois en garde ce matin contre les risques de conflits. Correspondance à Pékin avec Dominique André et puis la crise au Venezuela qui s'accentue, le président Maduro qui place les institutions portuaires sous l'autorité d'un commandement présidentiel d'union civile et militaire, c'est son nom. Analyse de Thomas Schoner dans cette édition. C'est donc l'heure de la passation de pouvoir en Grande-Bretagne. Nous sommes moins de trois semaines après le choc du Brexit. David Cameron laisse la place aujourd'hui même à Theresa May. Il présente sa démission tout à l'heure à la reine Elisabeth II après une dernière séance de questions devant le Parlement à Westminster. Et puis elle, eh bien, Theresa May, sera ensuite à son tour reçue par la souveraine qui lui confiera le soin de former le nouveau gouvernement. Elle prend ses fonctions à un moment qui aurait posé des problèmes même à Churchill, écrivait ce matin le quotidien The Guardian, pour souligner l'ampleur de la tâche qui l'attend. Mais finalement, Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
L'impression qui prévaut, c'est quand même que ce choix assez rapide de Theresa May permet à la Grande-Bretagne de tourner au mieux peut-être cette première page de l'après-Brexit.
C'est en effet dans la culture britannique de réagir vite. Eux savent mieux que personne que les marchés financiers ont besoin d'être rassurés. Et cette nomination éclair de Theresa May est un signal fort. Fort en termes de changement. Tout d'abord, c'est une femme. Et même si la comparaison avec Margaret Thatcher ne tient pas, il vaut en tout cas pour le symbole. Symbole d'autorité et de détermination. Même si Theresa May peut paraître parfois distante, estime la presse britannique ce matin, jamais une nouvelle Premier ministre n'aura annoncé aussi clairement sa ligne politique et son programme à venir. Theresa May annonce en effet un conservatisme différent et une rupture avec le passé. Donc Antoine, Theresa May se montre comme la femme de la situation. Ses déclarations pour le moment ont été brèves et directes, c'est son style. Theresa May devrait entrer donc au 10 Downing Street avant la fin de la journée et s'atteler immédiatement à la composition de son gouvernement. Cette tâche s'annonce délicate, en effet. On s'attend à ce que la nouvelle dirigeante de l'exécutif désigne plusieurs femmes à des postes clés et il n'est pas exclu que le ministre des Finances, George Osborne, perde son portefeuille. Cela confirmerait en tout cas ses intentions de rupture. Enfin, une nouveauté très attendue également, Theresa May va créer une administration spéciale et nommer un ministre dédié aux questions du Brexit. Sera-t-il un eurosceptique ou pas? Le choix qu'elle fera, là aussi, en dira long sur sa stratégie européenne.
Merci beaucoup, Annabelle Grelier, en direct de Londres. En Conseil des ministres à Paris ce matin, le porte-parole du gouvernement déclare que la position de la France ne change pas, à savoir qu'elle souhaite la sortie le plus rapidement possible de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. François Hollande annonce par ailleurs qu'il y aura fin août en Italie un sommet ou une rencontre sur les suites du Brexit avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Pour les places financières en tout cas, le Brexit semble déjà de la vieille histoire alors que les organismes internationaux économiques notamment alertaient avant le vote sur l'éventualité d'une grave crise financière en cas de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Tout semble désormais revenu dans l'ordre. En tout cas, les marchés ont effacé leurs pertes. Ils retrouvent des niveaux proches et parfois même supérieurs à ceux atteints avant le référendum. On est en ligne avec Christian Chavagneux pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste mensuel Alternative Économique. Comment vous expliquez-vous cet effacement des pertes après le Brexit aussi rapidement ?
Vous savez, au moment du Brexit, on a une incertitude assez forte sur ce que va devenir l'économie britannique. Donc, les investisseurs préfèrent vendre. Et dès que vous avez des gros investisseurs qui vendent, eh bien, tout le monde vend parce que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression que ça remonte, que le cadre politique est en train de se mettre en place. Votre reportage vient de l'indiquer. Et donc, une fois qu'on a bien vendu et que la situation politique paraît stabilisée, eh bien, il y a du bon bargain, il y a des bonnes occasions à faire. Donc, on rachète, à ce moment-là, ça fait remonter la bourse.
Vous voulez dire qu'il y a une déconnexion finalement complète entre ce qui se voit tous les jours à la bourse et, disons, un moyen terme malgré tout économique, parce qu'on peut imaginer que les effets du Brexit ne sont pas forcément complètement terminés.
Alors, tout à fait, les effets du Brexit sont loin d'être terminés, donc on aura d'autres phases d'instabilité à la bourse en Europe en général et au Royaume-Uni en particulier, mais là, ça valait vraiment la peine de vendre et de gagner de l'argent en vendant. On l'a vu d'ailleurs sur les valeurs bancaires par exemple, puisqu'il y avait une incertitude assez forte sur le fait que, une fois que vous êtes positionné à Londres, est-ce que vous pouvez faire du business financier dans tout le reste de l'Europe? Aujourd'hui on peut, demain on ne sait pas, donc les valeurs bancaires ont été, et financières ont été très attaquées. Dans la remontée de la bourse que vous signaliez tout à l'heure, eh bien on voit que toutes les valeurs bancaires remontent. Donc c'est vraiment de la fluctuation de court terme qui consiste à faire de l'argent quand ça baisse. Et une fois que ça a bien baissé, c'est du bon prix, c'est de la bonne occasion. On rachète et on refait de l'argent en achetant.
Ça veut dire que la volatilité, ou ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire l'amplitude finalement des changements, continue d'augmenter sur les marchés. Il y a les statistiques là-dessus, j'imagine.
Alors oui, ça fait plusieurs années que la volatilité des marchés financiers en général et des marchés actions en particulier de la bourse augmente beaucoup et les investisseurs financiers adorent ça, puisque que ça aille dans un sens ou dans l'autre, à chaque fois qu'il y a de la volatilité, il y a des paris à faire, donc il y a beaucoup d'argent à gagner.
Christian Chavagneux, merci beaucoup, éditorialiste à Alternative Économique. Merci d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Au Conseil des ministres ce matin, commentaire du porte-parole du gouvernement à propos du meeting hier d'Emmanuel Macron à la mutualité. Il faut éviter de s'égayer, de se disperser. Monsieur Macron a clairement évoqué hier son engagement pour 2017, mais sans se déclarer candidat et tout en continuant d'épargner François Hollande. Donc il y a eu 1h20 de discours, toujours assez difficile de savoir ce qui distingue vraiment le macronisme du libéralisme traditionnel. Et cependant, le ministre est parvenu à maintenir l'enthousiasme de son auditoire en surfant sur un thème assez largement répandu en ce moment, le thème du renversement des élites. Stéphane Robert, vous y étiez attentif aux paroles comme à l'air, parce que c'est aussi important.
Oui. Lui aussi verse dans le populisme Emmanuel Macron, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen et comme d'autres. Lui aussi veut s'adresser à cette France qui se sent oubliée par les élites.
Il y a cette France qui a peur du déclassement, qui ne se retrouve pas dans ce monde qui va, qui habite la province, qui voudrait réussir mais qui sent qu'elle a au fond peut-être un peu moins de droits qu'hier, que le monde dans lequel elle avait construit ses repères n'est plus là. Et il faut aussi l'entendre, cette France. Il ne faut pas qu'on lui explique qu'au fond, la solution qu'on lui apporte, c'est la France des start-upers. Il faut qu'on lui apporte des vraies solutions aussi pour elle. Un discours d'explication du monde aussi pour elle. Il faut qu'on lui explique qu'il y aura des changements, mais qu'on va dans une direction commune. Parce que notre volonté, nous progressistes, c'est de réconcilier ces deux Frances. C'est de les remettre ensemble.
La différence de ce populisme macronien, si l'on peut dire, différence d'avec Le Pen ou Mélenchon, c'est que lui refuse de jouer une France contre une autre, de privilégier la France des oubliés contre la France des élites, de considérer qu'il y a une France chrétienne contre une France musulmane. Bref, Macron, vous l'avez entendu, lui veut rassembler. Là où c'est un brin populiste, c'est que lui aussi veut bouleverser l'ordre établi. Le clivage droite-gauche, il n'en veut plus, parce que ça correspond au clivage d'un monde ancien, et que pour faire face aux défis du monde nouveau, du monde qui est à naître, il faut selon lui rassembler tous les hommes de bonne volonté, de droite, de gauche, du centre. Pas question non plus de donner l'illusion qu'il veut construire une société égalitaire. Par essence, la société d'Emmanuel Macron n'est pas égalitaire, c'est une société où doivent s'exprimer les libertés, mais elle prétend quand même donner sa chance à chacun, quelles que soient ses particularités, ses différences. Il prône la construction d'une société méritocratique. Le macronisme, c'est une méritocratie, une reconstruction de l'ascenseur social.
Alors, reconstruire l'ascenseur social, mais alors comment faire et comment précisément, est-ce qu'il y a un programme?
Oui, parce qu'on n'a eu aucune esquisse de solution hier soir. Pour l'instant, le macronisme, ce sont des intentions, des consultations, du porte-à-porte, une marche, certes, mais vers quoi? Tout ça est encore assez brouillon, le projet reste à construire. Et puis rappelons que même s'il a fait un grand pas hier soir, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat.
Stéphane Robert, merci. Après 2 ans et demi de baisse, l'emploi à domicile a rebondi au premier trimestre. La masse salariale nette versée par les employeurs de salariés à domicile, les gardes d'enfants, les aides ménagères, etc., a progressé, cette masse salariale, de 1%. Et cela s'explique, Hakim Kasmi, par un changement de politique fiscale.
Oui, Antoine, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les 3,6 millions de personnes qui emploient des nounous, des femmes de ménage ou encore des aides à domicile pour les personnes âgées. Alors concrètement, ce rebond s'explique par le vote par le gouvernement à la fin de l'année dernière d'un amendement au projet rectificatif qui abaisse les cotisations patronales. Au premier trimestre, la masse salariale du coup a augmenté de 1%, soit 1,2 milliard d'euros. Ce qui est au passage est aussi bon pour les caisses de l'État qui luttent en ce moment contre la fraude fiscale, car cela incite du coup les ménages à moins payer leurs employés au noir. Pour preuve, le nombre d'heures déclarées au premier trimestre a augmenté de 0,5%. Les familles trouvent aussi leur compte, car grâce à ce rabot fiscal, elles économisent 190 euros par mois, ce qui est loin d'être négligeable. Alors certes, cette mesure fiscale va faire perdre 225 millions d'euros au budget de l'État, mais elle permettra aussi aux employeurs et aussi et surtout aux salariés de revenir dans la légalité, notamment en ce qui concerne les cotisations retraite et chômage. En France, le secteur de l'emploi à domicile représente 1,6 million de personnes.
Hakim Kasmi. Après la décision de la Cour internationale de La Haye qui considère sans fondement les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale, Pékin met en garde ce matin une nouvelle fois contre les risques de conflit et menace de créer une zone de défense aérienne dans cette région stratégique. Ne faites pas de la mer de Chine méridionale le berceau de la guerre, lançait ce matin le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. On retrouve Dominique André à Pékin.
Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères était sur le pont dès ce matin pour faire part de la colère de son pays. Depuis des mois, la Chine martèle avoir des droits historiques sur cette grande zone maritime riche en hydrocarbures, en poissons et voie de passage stratégique pour le commerce mondial. Liu Jianmin n'a usé d'aucun langage diplomatique.
Cette sentence n'est qu'un bout de papier, elle n'a pas de valeur juridique. C'est à mettre à la poubelle ou dans les archives. Nous espérons que la Chine et les Philippines pourront régler leurs différends par la négociation et la consultation. Quant à l'instauration d'une zone de défense aérienne, je veux d'abord dire que la Chine a le plein droit de l'établir. Nous l'avons déjà fait en mer de Chine orientale. Et la décision de refaire la même chose dépendra du degré de menace auquel nous serons confrontés. Si nous ne nous sentons plus en sécurité, nous considérerons l'instauration d'une telle zone de défense comme étant légitime. Mais nous espérons toutefois que d'autres pays ne profiteront pas des tensions pour agresser la Chine. Nous voudrions collaborer avec nos voisins pour préserver la paix en mer de Chine méridionale, au lieu de transformer cette région en zone de guerre. L'objectif de la Chine est la paix, l'amitié et la coopération mutuelle.
Les turbulences en mer de Chine sont très commentées. L'opération de propagande a bien fonctionné auprès d'une opinion publique qui soutient le gouvernement chinois.
La crise politique et économique au Venezuela, devant la grave pénurie de vivres et de médicaments que connaît le pays, le président Nicolas Maduro décide de prendre le commandement total de l'approvisionnement. Tous les ministres ont d'ailleurs été placés sous l'autorité de ce commandement présidentiel dit d'union civile et militaire, mais aussi les principaux ports. De Thomas Schoner.
Oui, 5 ports sont aujourd'hui désormais placés sous autorité militaire, dont celui de Puerto Cabello, dans le nord, le plus important du pays. Cette prise est un énième épisode de la crise que traverse le Venezuela. Son économie dépend entièrement du pétrole, mais avec la chute des cours, la population doit aujourd'hui faire face aux pénuries, à l'inflation. 720% d'inflation en 2016, d'après les prévisions du FMI. L'autorité de Nicolas Maduro, bien sûr, est remise en cause. Avec cette crise, depuis plusieurs mois, l'opposition de droite réclame un référendum pour le révoquer, l'opposition qui est majoritaire au Parlement. Le président vénézuélien se sert donc d'un des derniers leviers qui lui reste, à savoir l'armée. Elle va administrer les ports pour, je cite Nicolas Maduro, que ces ports commencent à fonctionner comme ils se doivent. Dans la rhétorique du président vénézuélien, toutes les difficultés économiques en fait actuelles sont assimilées à du sabotage. Il y a 2 jours, c'est une usine américaine qui fabrique notamment du papier toilette qui a été redémarrée de force. La direction avait annoncé qu'elle cessait son activité en raison d'un manque de devises pour acheter ses matières premières. C'était oublié un peu vite le slogan brandi par Maduro il y a 2 mois, usine arrêtée, usine occupée par la classe ouvrière. Autre phrase lancée là devant le Parlement et qui résume l'état d'esprit actuel du président vénézuélien, ceci est une guerre.
Thomas Schoner, merci. Le dernier bilan de l'accident de train qui s'est produit hier dans le sud de l'Italie. 27 morts, des dizaines de blessés de train qui se sont percutés pour une raison encore inconnue alors qu'ils circulaient à grande vitesse sur un tronçon à voie unique entre les villes de Corato et Andria dans les Pouilles. Le ministre des Transports évoquera sans doute l'accident en début d'après-midi devant le Parlement, peut-être pour répondre aux accusations selon lesquelles des fonds européens qui avaient été destinés à améliorer ces voies de chemin de fer ont été gaspillés. Les résultats médiamétriques de l'audience des radios. RTL reprend la tête avec une audience cumulée de 12,2% entre avril et juin. France Inter seconde avec un record historique à 10,7% d'audience en hausse de 1 point. France Info gagne aussi 0,1%. Point à 7,5 et puis France Culture à 2%, France Musique à 1,5 qui progressent toutes deux elles aussi de 0,2 points. Un temps encore instable, les passages d'averses vont rythmer la journée sur une grande partie du pays. Seules les régions proches de la Méditerranée vont garder un temps très ensoleillé, mais de plus en plus venté. Les températures cet après-midi de 17 à 32 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Je vous retrouve à 18h.